Voilà, donc ce soir, on sera, comme j'ai dit, dans Hébreux chapitre 11, et ce sera les versets 8 et suivants. Nous allons regarder ce que l'auteur aux Hébreux nous enseigne sur la foi d'Abraham et son appel. Nous sommes depuis plusieurs semaines maintenant guidés à travers l'Épître aux Hébreux dans l'histoire de l'Ancien Testament, en train de regarder ces personnages et ces héros de la foi qui sont présents. Et nous avons l'occasion donc de regarder leurs décisions, de regarder leurs exemples de foi qui nous encouragent aussi dans la foi et dans la persévérance. Et surtout pour les chrétiens qui ont reçu cette lettre, c'est cette idée de persévérer dans la foi en Christ malgré les épreuves, malgré les sacrifices et malgré le découragement ou même l'attrait des choses qui sont loin de Christ. Et dans cette liste de personnages pleins de foi, l'Ancien Testament, nous arrivons ce soir à l'histoire d'Abraham. Et il fallait bien parler d'Abraham quand on parle de la foi, n'est-ce pas? Si on devait penser à un personnage type de la foi de l'Ancien Testament, bon, c'est Abraham qui nous vient à l'esprit en premier. Il est le héros par excellence de la foi. Il est celui qu'on admire. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux est comme les autres enseignants importants du Nouveau Testament, il parle de la foi d'Abraham. On se souvient que Jacques a écrit à son sujet dans Jacques 2, 23, qu'en agissant, Abraham avait accompli les Écritures et dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. » Paul, dans Galates 3, verset 9, dit « De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. » Et dans le même chapitre, il dit que Abraham est le père de tous ceux qui ont la foi. Et même Jésus parle d'une manière élogieuse d'Abraham, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 8, verset 56, il dit « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Et donc quand on pense à Abraham, c'est Abraham l'ami de Dieu, Abraham le croyant, Abraham le juste, Abraham le père des croyants, Abraham celui qui a vu le jour de Christ à l'avance et qui s'en est réjoui. Et donc par conséquent, aucune liste de gens de la foi ne serait complète sans parler d'Abraham. Et ce soir, on va juste regarder quelques versets, parce qu'il y en a plusieurs qui parlent de ce qu'Abraham a fait, mais qui montrent comment Abraham a démontré sa foi en Dieu dans l'appel que Dieu lui a adressé. Et on va lire pour ça les versets 8 à 10, et puis sauter au verset 13 à 16 qui parle de cet appel d'Abraham. Et donc ne vous inquiétez pas, on saute Sarah, qui se trouve au verset 11 et 12, pour qu'on revienne avec un message entier sur elle. Donc on n'est pas en train de l'ignorer, on veut juste lui donner un peu plus de place qu'une parenthèse. Mais voici ce que nous lisons dans Hébreux 11, les versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et au verset 13, en parlant toujours d'Abraham et des autres patriarches, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dans ces passages, nous voyons le premier exemple éclatant de foi dans la vie d'Abraham. Et c'est comment il a répondu à l'appel initial de Dieu, lorsqu'il se trouvait encore chez lui. Et juste pour rappel, l'appel peut être résumé, en fait il y a plusieurs passages qui en parlent, mais peut être résumé dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. Nous lisons que l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà l'appel que Dieu adresse à Abraham. Et on voit dans la suite de l'histoire comment Abraham répond à cet appel. Et nous avons ici, par l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux 11, versets 8 à 10 en particulier, le rappel que la foi n'est jamais simplement un exercice intellectuel. La foi, ce n'est pas simplement de dire « je crois et je suis d'accord avec tel ou tel credo », même si la doctrine, l'enseignement est importante. La foi est seulement réelle si elle est vécue par des actions concrètes de confiance en Dieu, si elle est mise en œuvre. Et c'est ce que nous constatons avec Abraham. En fait, au verset 8 à 10, nous avons quatre actions concrètes, quatre verbes où Abraham est le sujet qu'il est en train de faire. Voici les quatre actions qu'il a prises selon l'auteur aux Hébreux. Premièrement, il obéit par la foi à l'appel de Dieu. Il obéit. Deuxièmement, par la foi, il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il alla s'établir comme un étranger dans la terre promise. Et finalement, par la foi, il attendait une cité qui a de solides fondations. Abraham obéit, Abraham part, il s'établit comme étranger et il attend les promesses de Dieu. En fait, on pourrait dire cette première action, l'obéissance d'Abraham, elle va être décrite par les trois prochaines actions, n'est-ce pas ? Il n'obéit pas d'une manière abstraite, mais d'une manière concrète. Et c'est en partant, en s'établissant et en attendant les promesses de la part de Dieu. Et j'aimerais juste, donc, avec le temps qui nous reste ce soir, regarder ce que cela signifiait pour Abraham de partir, de vivre comme étranger et d'attendre les promesses de Dieu. Et pourquoi ça, c'est important pour les chrétiens du premier siècle, mais pour nous aujourd'hui aussi. Donc, premièrement, Abraham démontre sa foi et devient un exemple de foi en partant sans savoir où il allait. Et en fait, lorsqu'on lit le récit dans la Genèse, nous voyons qu'Abraham a dû partir deux fois. Parce qu'initialement, il se trouvait dans un endroit qu'on appelle dans la Bible Ur des Chaldéens. Et de là, il va partir et aller dans un autre endroit qui s'appelle Haran. Et puis de Haran, il ira finalement dans la terre promise. Et Ur, c'était le lieu de sa naissance, sa ville de naissance. Et puis Haran, c'est le lieu où sa famille s'est établie après avoir parti. Et qu'est-ce que ça signifiait pour lui, pour Abraham, de partir de son pays et de sa ville ? Quand on regarde l'histoire et les experts bibliques ne sont pas tous d'accord pour dire où se trouve Ur et où se trouve Haran. Il y a plusieurs endroits possibles. Mais l'endroit le plus probable pour la ville d'Ur, c'était une ville en Mésopotamie du Sud, un endroit plus ou moins 300 km au sud-est de Bagdad, en Irak aujourd'hui. Et à cet endroit, les fouilles ont trouvé une ville qui s'appelait Ur, qui existait au temps d'Abraham. Et ce qui est fascinant dans cette ville, c'était de découvrir que c'était vraiment un centre urbain. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants se trouvaient là-bas. C'était un lieu qui était connu à l'époque pour son importance commerciale, son importance artistique et même académique. On a trouvé les restes d'une école qui se trouvait là-bas. Donc c'était vraiment un centre de culture, de culture, d'éducation, de richesse, de commerce, comme Lausanne, d'accord, un endroit qu'on pouvait admirer de partout. Et c'était un bon endroit où vivre. Et plus que cela, Ur était aussi un lieu de culte important. En Mésopotamie, Ur, c'était l'endroit où on allait principalement pour adorer la lune, pour le culte autour de la lune. Et bien sûr, d'autres divinités païennes. Et donc, il y a cette ville urbanisée, très moderne, très développée, très riche d'Ur. Et puis la ville d'Haran, de nouveau, il y a plusieurs Harans possibles, mais celle qui est la plus probable, c'était aussi une ville au nord de la Mésopotamie, donc complètement de l'autre côté de l'Euphrate. Ur se trouve presque à la fin de l'Euphrate, et puis Haran se trouve au début d'une des rivières qui va se jeter dans ce fleuve. Et probablement, la ville se trouvait tout à l'est de la Turquie actuelle, à quelques kilomètres de la frontière avec la Syrie, donc un endroit où il y a des conflits armés aujourd'hui. Mais c'était aussi une ville importante pour les peuples amoréens. Et c'était de nouveau un lieu dans un carrefour commercial. Et c'était aussi le centre de l'adoration du dieu de la lune, mais des amoréens, pas des peuples mésopotamiens. Et donc, dans ces deux endroits où allait Abraham, c'était des lieux riches, des lieux où il y avait un confort de vie assez développé, et aussi des centres religieux très importants. Et donc, Abraham, avant d'être appelé par Dieu, on pourrait dire, il est dans le lieu idéal pour vivre pour toute l'humanité de l'époque. Il se trouve dans le cœur de la civilisation, de la technologie, de l'art, de la religion, de tout ce qu'on pourrait demander. Et même plus que cela, il se trouve dans la maison de son père. Et vous savez, quand Dieu appelle Abraham et lui dit de quitter la maison de son père, il fait plus que dire au revoir à sa famille. Lorsqu'on vivait dans la maison de son père, on était sous l'autorité du père. Et on restait sous l'autorité de ce père de famille jusqu'au décès du père de famille. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Bon, on recevait en héritage la maison de son père. Et on devenait le nouveau chef de la famille, le propriétaire de tous les biens, celui qui régnait, entre guillemets, sur la maison. Et Abraham, tant qu'il vit chez son père, il attend un héritage de la part de son père. Mais de quitter donc la maison de son père, c'est plus que dire au revoir à ceux qu'il aime, même si ça c'était bien sûr important. Il est en train de dire au revoir à tout son avenir financier, à toute sa sécurité, à tout l'héritage qui devait lui revenir. Il est en train de tout abandonner. Il perd tous ses droits fonciers et toutes ses richesses en le faisant. Et donc nous voyons dans l'appel d'Abraham, quand Dieu lui dit « quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père », il est en train de quitter des lieux prospères pour aller à un endroit, même si c'est pas complètement sauvage, beaucoup moins riche, beaucoup moins développé que la Mésopotamie. Il est en train de quitter les centres urbains, de quitter le confort pour aller vivre comme un nomade à l'étranger. Il ne va pas plus pouvoir compter sur la stabilité politique des grandes villes. Il ne va plus pouvoir compter sur le soutien des membres de son clan ou de sa famille en cas de besoin. Mais il va survivre, on dirait, grâce à ses propres efforts, mais en fait grâce à la grâce et à la bienveillance de Dieu. Mais c'est son seul soutien. Il doit abandonner son héritage dans sa famille. Il n'a pas flairé une bonne affaire en Canaan et il s'est dit « bon, je vais quitter Haran maintenant et ma famille ». Non, il doit abandonner toute sa sécurité. Il doit abandonner tout son confort, il doit abandonner l'avenir qu'il attendait pour pouvoir mettre sa confiance en Dieu. Et en plus de cette sécurité, de cette famille, de cette patrie, de ce sentiment d'appartenance, il est en train de quitter, et ça c'est très important, ce monde d'idolâtrie dans lequel il vivait. C'est intéressant quand on lit dans Josué 24, les versets 2 à 3, voici comment Josué décrit la vie d'Abraham et de sa famille. C'est Josué 24, les versets 2 à 3. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je l'ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. » Bon, Abraham laisse derrière lui non seulement sa famille et son héritage, mais aussi les dieux qui étaient censés le protéger, et probablement le dieu de la lune, c'était le dieu principal. Mais il laisse ses idoles, il laisse les dieux familiaux, les dieux nationaux derrière, pour suivre Yahvé qui est en train de l'appeler. Et il devient de cette manière entièrement, il faut comprendre, entièrement dépendant de Dieu. Il est en train de laisser toutes les sécurités de sa vie pour suivre les promesses de Dieu. Et ça, c'est un acte de foi. Nous savons la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Nous savons ce que cela va lui apporter. Comment il est en train d'abandonner une société qui va disparaître. Nous voyons comment il est en train d'abandonner de faux dieux pour suivre le vrai Dieu. Nous voyons comment il va recevoir d'énormes richesses, une grande famille, un grand héritage. Mais lui, il ne voit pas tout ça. Il a seulement les promesses de Dieu. Et donc, il y a cette foi qui est vécu. Et nous sommes censés regarder cet exemple d'Abraham et de dire, est-ce que c'est ce que Dieu est en train de faire pour moi? Est-ce qu'il m'appelle à laisser derrière moi les choses inutiles pour pouvoir recevoir l'héritage de Dieu? Quelques versets avant, dans Hébreux chapitre 10, les versets 32 à 34, l'auteur a rappelé aux chrétiens ce qu'ils avaient abandonné pour lui. C'est Hébreux 10, 32 à 34. « Mais souvenez-vous, de ces premiers jours, où après avoir éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations. D'autre part, vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Et il y a ce mot permanent, n'est-ce pas, comme la cité qu'Abraham attendait. Au départ de leur voyage en Christ, ils ont dû faire des sacrifices. Certains d'entre eux sont allés en prison. D'autres ont eu tous leurs biens confisqués. D'autres ont souffert probablement physiquement. Et encore beaucoup plus d'entre eux sont devenus des gens qui ont perdu leur honneur et leur bon nom dans la société à cause de Christ. Il y a eu les rejets et tout cela. Mais ces sacrifices valent la peine parce qu'ils ont mis leur foi dans le Dieu d'Abraham. C'est intéressant en lisant ce passage et en pensant à comment Abraham devient le modèle pour ceux qui ont la foi, ceux qui suivent l'appel de Dieu, en laissant ce qui est derrière, en allant vers la ville que Dieu prépare. Ça m'a fait penser à la colo, à la colonie des enfants que nous aurons dans 2 semaines, parce que le thème, c'est le livre « Le voyage du pèlerin », qui est un vieux livre chrétien anglais, qui parle d'un chrétien, c'est le nom du personnage, c'est toute une allégorie, qui est sur un chemin, et qui quitte la ville de la destruction pour aller vers la Jérusalem céleste. Et puis, il doit faire des choix pour rester sur la voie étroite et pour arriver jusqu'au ciel. C'est une allégorie de la vie chrétienne. Je ne suis vraiment pas un grand fan de ce livre. Je le trouve un peu lourd. Mais bon, c'est écrit il y a 300 ans. Hein. Il faut être patient, un peu plus même avec les autres cultures. Mais une des choses qui est quand même inspirante dans ce livre, c'est cet appel à être quelqu'un qui laisse le monde, le péché, les choses qui nous éloignent de Dieu derrière et qui cherche de tout son cœur à recevoir les promesses de Dieu. Et ça peut être inspirant. Et je crois que nous avons cette vision de la part de l'auteur aux Hébreux et que c'est Jésus lui-même qui avait cette vision de la foi. Et je crois que Jésus pense à Abraham dans Marc chapitre 10, les versets 29 et 30, quand il appelle des disciples. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté, à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, premièrement dans ces temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs et des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Bon, ce qu'il dit, c'est presque un peu l'histoire d'Abraham adaptée ou mise à jour à la lumière de l'Évangile. Ceux qui sont appelés par Christ sont appelés à sacrifier des choses, que ce soit des styles de vie qui n'honorent pas Dieu, que ce soit des relations qui seront tendues à cause de la foi, que ce soit un bon nom dans la société, que ce soit la sécurité financière ou matérielle. Nous sommes appelés à des sacrifices, à laisser des choses derrière nous au nom de Christ. Mais la promesse, c'est que Dieu prend soin et donne des richesses bien plus permanentes en échange. Et donc Abraham, le modèle, parce que quand Dieu l'appelle, il lâche tout finalement pour suivre les promesses de Dieu. Mais la deuxième chose, il montre sa foi en vivant comme étranger une fois qu'il est dans la terre promise. Abraham arrive à Canaan et c'est la terre qui doit lui appartenir, mais rien ne lui appartient. N'est-ce pas ironique? Il va passer des décennies, toute sa vie en fait, jusqu'à sa mort, dans la terre qui doit lui appartenir, à lui et à ses descendants, et ne pourra jamais dire « ceci m'appartient ». Et ça aussi, c'est un exemple de foi. Et nous savons l'histoire, hein, quand on va lire dans la Genèse l'histoire d'Abraham, c'était très dur pour lui. C'était pas facile pour lui de vivre comme un étranger. Il a eu de la peine à avoir confiance en Dieu. Mais malgré tout, il a persévéré dans la foi. Et pour Abraham et pour ses fils, ils ont reçu les promesses de Dieu. Et même Abraham a vu l'accomplissement de certaines promesses. Isaac est né. Il a pu attendre plus d'accomplissement des promesses à cause de ça. Dieu l'a béni. Il a eu des grandes richesses malgré le fait qu'il a quitté sa famille. Il était quelqu'un qui était puissant et qui était respecté. Mais les grandes parties de des promesses données n'ont jamais été reçues. Et comme en Mésopotamie, Abraham a dû vivre dans un monde d'idolâtrie et d'immoralité. Si la Mésopotamie, c'était pas génial au niveau spirituel, bon, Canaan, c'était pire. Bon, ça allait devenir beaucoup plus pire. Ça allait s'empirer, bref, pendant les 400 ans qui allaient suivre. On n'était pas arrivé au pire moment de l'idolâtrie. Mais Canaan, c'était jamais considéré comme un lieu de grande sophistication et pureté religieuse, mais un endroit de péché et un endroit d'idolâtrie. On pense bien sûr à Sodome et Gomorre. Et Abraham doit vivre séparé de cette culture où il est vraiment un étranger, où il vit à part. Il ne va jamais s'acheter des terrains pour construire une ville qu'il va nommer de son nom ou des autres. Il va jamais recevoir non plus en cadeau des terres de la part des habitants. Il refusera de lever une armée et de prendre de force des villes pour qu'elles lui appartiennent. Et il refusera aussi de s'implanter et de se mélanger avec les populations. Il n'ira pas vivre dans les villes comme Lot. Il ne prendra pas des filles des populations cananéennes pour les donner à ses fils, comme l'ont fait d'autres. Mais il va vivre à part dans cette terre qui lui appartient, mais qui ne lui appartient pas. Il doit vivre une vie difficile où il est toujours et constamment un étranger. Et vous savez, moi je suis binational, je suis américain-suisse, et j'ai toujours un peu le sentiment d'être un étranger en Suisse, parce que je ne suis pas vraiment un Suisse pure souche. Hein. Smith, comme nom de famille, ce n'est pas exactement. Il y a des gens qui essaient de m'appeler Justin plutôt que Justin, hein, tout le temps. Mais donc, je suis un étranger tout en étant chez moi. Et quand je vais aux États-Unis, on m'appelle le Suisse, parce que je ne suis pas de là-bas non plus. Et donc, partout où je vais, je suis un étranger. Mais peut-être c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Parce que, de nouveau, Abraham est l'exemple. Là. Il est chez lui, mais sans être chez lui. Partout où il va, il vit comme un étranger. Pas par haine du monde. On voit même chez Abraham quelqu'un qui aime les Cananéens, qui veut prendre soin d'eux, même les pires d'entre eux. Il se tiendra devant Dieu pour protéger Sodome et Gomorrhe. C'est quelqu'un qui est plein de compassion, de bienveillance pour ceux qui sont autour de lui. Même si, bien sûr, il a d'autres problèmes dans sa vie. Mais malgré cela, il vit comme un étranger. Et les chrétiens étaient appelés à vivre de la même manière. Dans Hébreux 13, versets 13 et 14, voici l'appel qui est donné aux chrétiens en utilisant le modèle de Sinaï et puis aussi des sacrifices des animaux. Hébreux 13, versets 13 à 14. « Sortons donc hors du camp pour aller à Christ en portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Et de nouveau, cette idée-là qui est mélangée, il mélange les métaphores, il y a Christ, il y a les sacrifices, il y a Abraham qui attend la cité, mais l'idée est toujours la même. C'est de sortir du camp, de sortir du monde, parce que nous avons un meilleur monde, une meilleure cité qui nous attend. Bon, l'idée n'est pas là qu'il faut aller acheter un monastère et vivre à l'écart de la société, mais plutôt de sa manière de vivre, dans les priorités, dans la vision du monde, de dire j'appartiens à Dieu et je ne suis pas le cours du monde. La question pour nous, comme pour Abraham et comme pour les chrétiens à travers les siècles, est très simple. C'est est-ce que j'attends une patrie meilleure? Est-ce que je vis ma vie au quotidien en me disant je dois sortir du camp? Je veux être différencié du monde avec Jésus, avec Abraham, avec les patriarches, avec les autres héros de la foi, pour aller vers une cité meilleure. Et nous pouvons regarder nos vies et nous poser cette question, est-ce que nous avons des vies qui sont un témoignage, non pas de mépris du monde, mais d'une séparation parce que nous appartenons à Dieu? Est-ce que mes convictions se montrent-elles tous les jours? Est-ce que les gens peuvent voir que j'ai une espérance qui va au-delà de cette vie? Est-ce que ma manière de passer mon temps rend témoignage que j'attends une cité qui est meilleure? Est-ce que l'affection et le soin que je montre pour ma famille spirituelle et ceux qui sont autour de moi font témoignage de mon espérance? Est-ce que ma manière de dépenser mon temps et mon argent montre que j'espère dans plus que cette vie-là? Est-ce que je suis ou est-ce que je suis identique au monde dans tous les aspects de ma vie? Bon, Abraham aurait pu se conformer tout en attendant les promesses de Dieu. Mais il savait qu'il devait vivre en étranger pour obéir à Dieu. Bon, Abraham, notre exemple, par celui qui quitte toute la sécurité parfois en Dieu. L'exemple par celui qui vit à part, étranger dans sa propre terre. Mais nous savons qu'il n'y a pas que du négatif dans son histoire. Parce qu'il est quelqu'un plein d'espérance, qui vit avec l'attente d'une cité qui a de solides fondations. Et si on revient à Hébreux 11, les versets 13 et 14, un peu le résumé de l'espérance d'Abraham, on va relire ces versets. « C'est dans la foi que les patriarches sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Ils ont reçu une part des promesses, hein, ces bénédictions, ces enfants. Abraham a eu un fils malgré son âge avancé. Mais il n'a pas reçu la majeure partie des promesses. Il a donc dû vivre par espérance. Et quand Étienne parle au chef des Juifs dans Actes chapitre 7, et versets 4 à 5, il va décrire ainsi la vie d'Abraham, qu'il sortit du pays des Chaldéens et habita Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays où vous habitez maintenant. Il ne lui donna dans ce pays aucun héritage, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Et ça, c'est Abraham, quelqu'un qui vit dans l'attente des promesses de Dieu, dans l'attente d'un héritage, dans l'attente d'une vie. Et nous avons lu les passages hein, ces dernières semaines, ces derniers mois dans Hébreux, où nous avons la même attente de l'héritage, de la vie éternelle auprès de Dieu. Nous attendons que Dieu nous donne toutes ses promesses. Mais nous n'avons pas toutes les bénédictions, ni toutes les promesses aujourd'hui, dans ce moment présent et dans cette vie. Nous vivons d'espérance. Avec reconnaissance pour les bénédictions que Dieu nous donne aujourd'hui, nous attendons toujours quelque chose de meilleur. Et il faut savoir que parfois des gens vont nous dire que nous n'avons pas quelque chose, peut-être la santé, peut-être la paix intérieure, peut-être une guérison d'une maladie, peut-être des richesses, parce qu'on manque de foi. Ils disent, bon, si vous n'avez pas telle ou telle bénédiction, c'est vous n'avez pas assez de foi, vous n'avez pas utilisé la bonne formule dans votre prière, ou telle autre présent. Parce que si vous aimiez vraiment Dieu, alors vous auriez déjà toutes les promesses. Et nous savons que même si Dieu nous bénit, cela n'est pas vrai. Que nous ne vivons pas une vie de foi, notre relation avec Dieu, uniquement pour cette vie et pour des réponses immédiates. En fait, Dieu ne donne pas les promesses immédiatement. La confession d'Abraham et des patriarches, et aussi des Israélites plus tard, c'était « Je suis un immigrant et un résident temporaire chez vous ». Il dira, il y a cette confession dans le psaume 39 qui dit « Je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes pères ». Et dans Deutéronome, avant d'entrer dans la terre promise, tout le monde devait répéter cette phrase « Mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens pour y séjourner ». Nomade, étranger, pèlerin, parce que nous attendons pour plus de notre vie que ce jour ici. Mais nous attendons avec confiance ce jour de gloire. Abraham n'a pas reçu encore toutes les promesses de Dieu, mais il les attendait et nous savons qu'il les a vues. C'est Jésus qui nous le dit et c'est probablement par la foi qu'il les a vues. Et nous savons que malgré ces grands exemples de foi, Abraham n'était pas parfait. Il y a ces moments éclatants de foi où il met toute sa confiance en Dieu et il y a des moments assez abjects, n'est-ce pas, où il a peur, où il ment, où il manipule les gens autour de lui et il fait du mal. Mais malgré tout cela, quand Dieu regarde sa vie et témoigne de lui à travers les apôtres, à travers Jésus, on voit cette foi éclatante. Et n'est-ce pas beau de voir que Dieu a un si bon témoignage de quelqu'un que nous pouvons reconnaître dans sa faiblesse aussi. On peut même facilement regarder à lui. Il est tellement humain. Parfois une si grande foi et parfois une si grande faiblesse. Mais nous, comme Abraham, nous attendons quelque chose de meilleur, qui vaut plus que toute la sécurité, tout le confort, toute l'appartenance, toutes les richesses, que même les maisons, les terres, les héritages ou la famille. Il attendait le pays et la cité de Dieu. Et c'est ce que nous attendons aussi, pourvu que nous restions fidèles jusqu'au bout pour obéir à Dieu, quoi qu'il en coûte. Voilà l'exemple d'Abraham pour nous.